a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale, c'était le 15 octobre dernier, avec une majorité claire, hein, 359 pour, 114 contre et 72 abstentions. Le projet de loi de bioéthique devrait arriver au Sénat courant janvier. D'ici là, chaque jeudi matin, nous en examinons les principaux articles. Et pour ce faire, je suis accompagnée de Maïlys Jahan, déléguée Alliance Vita Haute-Garonne. Bonjour Maïlys.
Bonjour Isabelle.
Alors, après l'extension de la PMA aux couples de femmes et les changements du mode de filiation, nous nous arrêtons ce matin sur l'article 2. Il est consacré à l'autoconservation des gamètes. Comme c'est la règle que nous nous sommes fixés, je vais lire l'article 2, ceci afin de rester vraiment au plus près du texte, au plus près de la réalité. Une personne majeure qui répond à des conditions d'âge fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l'équipe clinobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation des gamètes en vue de la réalisation ultérieure à son bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. Bon, alors c'est un article de loi, évidemment, ça fait un peu charabia, recueil, prélèvement, conservation de gamètes. De quoi parlons-nous ce matin, Maïlys Jahan, dans cet article ?
Oui, alors il s'agit en fait, si l'article est voté, finalement de proposer à toute personne majeure qui répond à certaines conditions de conserver hors de leur écrin naturel, qui sont les ovaires, les testicules, nos cellules les plus précieuses, les plus extraordinaires du corps humain, celles qui transmettent la vie, les gamètes, pour les congeler dans des laboratoires de procréation artificielle dans l'attente d'une hypothétique fécondation par PMA.
Congeler, donc congeler pour plus tard les retrouver et faire une PMA. Hein. Différer le moment de concevoir un enfant, c'est
tout
ça.
Tout à fait, c'est ça.
Alors, il y a des conditions d'âge peut-être pour procéder à ce recueil et congélation des gamètes,
hein. A priori, cette condition, ce serait à partir de 30-32 ans.
À partir de 30-32 ans, et quid des frais ?
Alors, les frais... Le recueil, le traitement et le recueil seront pris en charge par la Sécurité sociale. Et en revanche, la conservation des gamètes seront à la charge du demandeur.
Et qui peut être concerné par cet article, congeler ses gamètes ?
Finalement, là, en l'occurrence, tout le monde pourra être concerné. Tous ceux qui souhaitent, pourquoi pas reculer le temps de leur maternité, soit qu'ils n'ont pas encore trouvé le bon conjoint, soit
ah oui, c'est vrai. Ouais.
Soit favoriser leur carrière, par exemple, ou des voyages.
D'accord. Et alors, jusqu'à maintenant, que disait le droit français ?
Jusqu'à présent, c'était possible pour des personnes qui faisaient l'objet d'un traitement qui pouvait porter atteinte à leur fertilité. C'est le cas de certains traitements de cancer. Et donc, on leur proposait de recueillir leurs gamètes pour qu'ensuite, plus tard, s'ils voulaient concevoir un enfant, ils puissent le faire par PMA.
D'accord. Donc, une personne qui avait une maladie, une pathologie grave pouvait se voir proposer ce dispositif. Alors, pourquoi est-ce que finalement, ce qui ressemble à une extension des possibilités avec cette levée de la condition médicale, vous me dites si je me trompe, pourquoi est-ce que ça fait débat ? Finalement, plus de monde pourrait en profiter.
Oui, en fait, il y a beaucoup de points qui peuvent faire débat. Déjà, je pense qu'on peut dire qu'il y a un mensonge, puisque on se rend compte que 3 femmes sur 4 environ seraient sans enfant malgré leur conservation des ovocytes.
Pour quelle raison ?
Parce qu'une PMA, ça marche pas à chaque fois.
D'accord.
Et même, ça marche plutôt moins que plus. Donc, il y a un mensonge. Non, vous n'aurez pas forcément votre enfant à la fin. Ensuite, plus on commence une grossesse tard, et plus on risque d'avoir des complications. Déjà, il y a la fatigue, mais il y a aussi tous les risques d'accouchement prématuré, beaucoup de conséquences qu'il peut y avoir, parce qu'on commence une grossesse plus tard. Donc forcément, comme on incite les personnes à avoir des enfants plus tard, on augmente les complications. On a aussi, on rentre à l'encontre du principe de non-marchandisation du corps. Là, on va proposer aux personnes de payer pour conserver leurs gamètes. Même si c'est des établissements à but non lucratif ou des établissements privés, on est quand même déjà dans une proposition de service, en quelque sorte.
Et vous avez parlé aussi tout à l'heure de différer une grossesse en vue de privilégier sa carrière professionnelle. Et est-ce que c'est quelque chose aussi qui fait partie des réserves que vous émettez, vous, à Alliance Vita ? Est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce que c'est possible, ça sera possible qu'une entreprise dise « je vais vous payer la congélation et comme ça, vous serez enceinte plus tard ». C'est de l'ordre du possible ou pas encore ?
Non, pas du tout. C'est spécifié dans l'article plus loin qu'il y a... est interdit de... L'entreprise n'a pas le droit de prendre en charge la conservation des gamètes de ses employeurs. En revanche, rien n'exclut qu'il puisse faire une pression insidieuse. Dire n'hésite pas, vas-y, c'est super, ne t'arrête pas dans ta lancée et tu feras ton bébé plus tard.
Alors c'est étonnant parce que le CCNE, hein, le Comité Consultatif National d'Éthique, alertait, c'était pas il y a des années, hein, c'était juste il y a 2 ans, il alertait la société sur les problèmes considérables, je cite, hein, soulevés par l'autoconservation des ovocytes, et il citait, c'est ce que vous nous avez dit, la surmédicalisation de la procréation, le coût et la prise en charge des opérations de prélèvement, les risques de pression sociale et professionnelle sur les malheureuses qui préféreront procréer des jeunes, danger lié aux grossesses tardives. Tout d'un coup, il change d'avis. Comment ça se fait? On change d'avis. La loi change d'avis. Comment ça se fait?
Je pense qu'il y a une pression ambiante aussi sociale. Certaines personnes qui veulent aller toujours plus loin dans la levée des barrières. Et donc, finalement, c'est un petit peu la loi du plus fort, je pense, qui prévaut plus que la
raison. Merci beaucoup Maïlys Jahan pour ce décryptage donc de cet article 2 du texte de loi que nous examinons ensemble jusqu'à sa venue au Sénat. Ça sera probablement en janvier prochain. Nous nous attarderons la prochaine fois, jeudi prochain, sur l'article 3 consacré, rappelez-moi, à la levée de l'anonymat. Hein.
C'est ça.
Merci Maïlys, à la semaine prochaine.
Au revoir Isabelle.